Mais pour l'instant, notre collègue Martin-Thomas Côté a fait une sortie quand même rare. T'es allé au Cercle de presse de Saguenay ce matin.
Mais c'est pas ma première quand même.
C'est pas ta première.
Je vais quand ça m'intéresse.
Mais pour expliquer aux auditeurs qui connaissent pas c'est quoi le Cercle de presse, ça date de 1900 fait plus. Là. C'est
150 ans, là. Depuis l'an dernier.
Les journalistes, dans le temps qui avaient parti ça, invitaient des invités de marque, même si souvent c'était des invités provinciaux, qui faisaient le trajet juste pour le Cercle de presse de Saguenay. Et pendant une heure, ben, ils cuisinaient sur tous les sujets qu'ils voulaient.
Exactement. Ça permettait à la région d'avoir des invités de marque, d'avoir des gens qui se déplacent. Puis au lieu de faire la tournée de lait, de faire tous les postes un après l'autre, ben on réunissait ça. Puis ça permet aussi des fois d'avoir des invités, comme c'est le cas ce matin, de gens qui n'accordent habituellement pas d'entrevue.
Ben c'est ça.
C'est
exactement. Le Cercle de presse est là pour des activités comme ce matin. Bon, d'autres fois, ça a plus le dos large, là, mais ce matin, c'est important. C'est pour ça que j'ai spécifié que c'est une sortie rare pour toi d'aller là. Le directeur du BAP. Bon, là, vous nous écoutez, vous êtes directeur du BAP, c'est un fonctionnaire pas très sexy comme sujet.
Président du BAP.
Qui était là pour répondre aux questions, mais vu ce qui se passe actuellement avec GNL Québec, vu que normalement, le bureau d'audience publique sur l'environnement va entendre les mémoires sur ce projet-là le mois prochain, normalement au mois de mars, ça devient particulièrement intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils font, le BAP, dans la vie, avant d'autoriser ou pas des projets.
C'est d'autant plus important qu'ils nous sont arrivés avec un sondage qui est un peu finalement à l'origine de leur nouvelle façon de faire, de vouloir communiquer avec la population. C'est 33% de la population qui savent c'est quoi le BAP dans leur sondage.
Le tiers seulement.
Et quand on énumère les rôles, le rôle et les missions du BAP, il y en a seulement 3% qui sont capables de dire « Ah, ben oui, c'est le BAP, ça. »
Ah, ben, je suis dans le 97%, j'ai l'impression. Parce que je sais c'est quoi le BAP, je sais c'est quoi sa mission, mais comment on juge des projets, tu me perds.
Mais c'est assez intéressant d'abord de savoir comment ça fonctionne. D'abord, le président est nommé par le ministère. Donc, le ministère de l'Environnement nomme un président. Et à la suite de cette nomination-là, il a les coups d'effrange pour monter son équipe qui est composée de membres permanents et une autre banque de membres qui vont composer les commissions dépendamment des lettres mandat qu'ils vont recevoir. En français, le ministre reçoit de la part d'un promoteur un projet. La loi l'oblige à le passer devant le BAP. Il écrit une lettre au BAP. Voici un projet. Je te demande de mettre sur pied une commission d'experts, de gens de différents milieux qui vont recevoir les questions, vont aider les citoyens à avoir l'information, vont permettre aux citoyens d'écrire des mémoires et je te demande de recevoir ces mémoires-là, de les analyser, de les regarder. Et ensuite de ça, ton pouvoir à toi, c'est de venir me donner un avis, de me recommander de faire le projet ou de ne pas le faire ou de modifier des choses dans le projet. Et à la suite de ça, la décision finale, et ça, c'est un grand mythe qui entoure le BAP. Le BAP n'est pas un organisme décisionnel. C'est un organisme aviseur. Donc, il avise le gouvernement. Et une fois que c'est fait, ce rapport-là sera déposé sur le bureau du ministre de l'Environnement, Benoît Charrette. Et c'est lui, parce qu'il est un élu et qu'il est redevable, qui va prendre la décision d'y aller ou pas, et qui va subir les conséquences d'être avec ou contre le BAP.
Donc, quand le gouvernement donne déjà son avis sur le projet, puis les opposants disent « Les dés sont déjà joués », ils n'ont peut-être pas tout à fait tort.
Ils n'ont pas tout à fait tort. Par contre, de prendre une décision à l'encontre du BAP, ça a des conséquences.
Ça paraît mal.
Ça a des conséquences. Ouais. Ça paraît très mal. Après ça, il faut que tu penses qu'on est dans un système où tu dois gagner tes élections, tu vas devoir te défendre d'avoir été contre le BAP. Il va falloir que tu t'expliques aussi, ce qui n'est pas le cas si le ministre prend sa décision d'attir. Là, il est obligé de répondre aux questions des journalistes qui ont l'avis du BAP en disant « Ouais, mais vous avez ignoré tel truc, vous n'êtes pas allé dans telle affaire, pourquoi? »
Mais ça va-tu aussi précis que dire leur rapport à la fin, en conclusion, pour tout ce qui est énoncé dans les dizaines de pages qu'on vient de vous déposer, le BAP croit que ça devrait aller de l'avant ou pas aller de l'avant?
L'avis qui est donné au ministère,
clair,
là,
l'avis est clair.
Il est très clair.
Ça laisse pas place à interprétation.
Non, il n'y a pas d'interprétation, là.
Ça semble être un organisme, je le dis en tout respect, ambulant, un genre de Beauce Carnaval de l'environnement. Autrement dit, il se déplace à l'endroit où ça va s'ériger éventuellement. Donc, il n'y a pas un ministère du BAP ou un bureau du BAP où on se déplace.
Regarde,
c'est eux qui s'amènent.
Je vous donne la procédure de comment ça va ressembler pour GNL. OK? Le président va recevoir une lettre mandat du ministre. On a un projet de GNL Québec. Il faut que tu formes une commission puis que tu m'enquêtes là-dessus. Le président va prendre sa lettre, va former son comité. Les membres du comité vont passer par des conseillers juridiques pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, que ce ne soit pas des gens qui soient achetés par la compagnie, que ce ne soient pas non plus des extrémistes écologiques, on comprend. Là, on veut avoir des gens qui sont le plus neutres, mais qui ont une expertise. Donc, des gens qui ont travaillé dans le domaine de l'environnement, dans le domaine économique, dans le domaine social. Et on va bâtir une équipe qui va se déplacer ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, c'est 25 jours après avoir reçu la lettre mandat, qu'il n'a toujours pas reçu d'ailleurs. Ça veut donc dire qu'on n'est pas encore à 25 jours du BAP, là.
Ah oui, j'allais dire, ça, c'est déjà franchi.
C'est pas fait.
OK.
Donc, on n'a pas notre mandat encore.
Quand on évoque le 10 mars, oubliez ça.
On n'est pas là. C'est 25 jours après la réception de la lettre mandat. Les gens vont se déplacer. La première phase du BAP, c'est une première audience qui peut durer de 2 à 4 jours où on va recevoir les citoyens. Et là, c'est bien simple. C'est pas comme au conseil de ville. On n'y est pas. Tu te présentes, tu poses ta question. Il n'y a pas de préambule. On te trouve une réponse ou on va te donner une réponse éventuellement. That's it, that's all. Et on y va comme ça pendant 2 ou 3 jours. Ensuite de ça, il y a 21 jours qui va séparer la deuxième audience, la deuxième et dernière audience, qui va permettre aux gens qui ont posé leurs questions d'avoir des réponses et de pouvoir terminer leur mémoire. Et à la deuxième audience, là, on dépose les mémoires et on parle. On reçoit tout ça, on ferme ça et là, on va prendre une décision dans les 3-4 prochains mois où on va faire une analyse. Puis, tu sais, quand on parle d'environnement, et ça, il a voulu vraiment mettre l'emphase là-dessus, l'environnement dans la tête des gens, c'est l'écologie. Mais dis-nous notre mandat, là, l'environnement, c'est bien plus large que ça. Là. Il dit l'environnement, c'est tout ce qui vous entoure. Là. C'est le social, c'est l'économie, c'est aussi l'écologie. Alors, tout ça est pris en compte dans les études du BAP. Et il arrive des fois, comme on l'a vu avec l'agence environnementale au fédéral, où on recommande des projets qui, écologiquement, font pas tellement de sens, mais qui, économiquement, t'as pas le choix d'y aller pour l'intérêt supérieur de la nation. Tu dois dire oui à ce projet-là. Donc, on pourrait arriver avec une recommandation de telle sorte de la part du BAP. Là. Ça ne veut pas nécessairement dire... Tu sais, BAP n'égale pas écologie.
OK.
C'est ça, j'ai trouvé ça intéressant dans son discours.
Là, dis-moi, quand on parle de date potentielle, c'est vraiment le ministre qui doit au PC fournir le mandat au président.
Exact.
C'est toujours pas fait.
C'est toujours pas fait. La lettre mandat est toujours pas envoyée.
OK. Bon, ça, c'est une chose. Autre chose. Depuis le temps que je m'intéresse à l'actualité, j'ai toujours entendu que ce qui était très important pour un rapport du BAP, c'est l'acceptabilité sociale d'un projet. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ils font pour juger de ça, pour savoir c'est quoi le niveau d'acceptabilité sociale du projet. On a fait un sondage Cogeco-Somme l'année passée sur la question. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à utiliser ça? Est-ce qu'ils scrutent les médias sociaux, voir les deux groupes qui se sont formés, qui a le plus de membres dans son groupe? C'est...
L'acceptabilité sociale pour eux, d'abord, les sondages, les groupes pour, les groupes contre, les coalitions, ils ne tiennent pas compte de ça. Pour eux, ils ont commencé leur intervention en disant « on ne fait pas un concours de likes ». C'est pas parce que...
Ouais. C'est une perte de temps ce qui se passe actuellement.
On tient pas compte de ça, mais pas du tout.
C'est le fun pour les médias, mais...
Pour eux autres, ça...
Okay.
Pour eux autres, c'est des espaces de diffusion d'informations. Ça, ils trouvent ça correct. Vous êtes informés, vous partagez de l'information, vous vous prononcez, ça, on trouve ça correct. Pour eux, le critère d'acceptabilité sociale, c'est quand je vous dis qu'il va y avoir des mémoires, par exemple, sur l'impact social du projet. Combien de jobs ça va créer? Combien d'organismes vont être impactés? Quelles sont les retombées économiques de ce projet-là pour les villes, pour les communautés? Tu sais, quand on parle d'acceptabilité sociale, on parle de ça, là, de quelles retombées on a pour la société en général et comment ces retombées-là sont accueillies par les différents acteurs. Donc, des gens comme la ville qui vont envoyer du monde, des gens comme les groupes communautaires qui vont envoyer du monde. Donc, c'est à partir des témoignages des gens qui vont se présenter à la commission qu'on va être capable de déterminer si oui ou non, il y a une acceptabilité sociale du projet.
C'est-tu, exemple, la ville peut se présenter en disant, nous autres, on est pour parce que les taxes que ça va amener, ça va faire travailler nos gens de construction.
Exact.
Génial. Tu peux avoir une gang d'environnementalistes qui disent, en passant, nous autres, on est contre parce que ça va tuer X nombre de bélugas.
Exact.
Bon, ça, on comprend
les
ça.
Les syndicats, même affaire.
Et ça fait partie de l'acceptabilité sociale. Est-ce que tu sais si on contre-vérifie ça? Est-ce qu'on les questionne? Maintenant, quelqu'un qui dit, hey, nous autres, on n'en veut pas, ça va tuer 20 bélugas par année. Est-ce que le BAP passe par en arrière en disant, vous fiez à quoi? Ou on fait juste dire, je note?
On note. On demande des preuves, ouais. Des arguments. Et ensuite de ça, le groupe d'experts qui se base sur l'étude d'impact environnemental que GNL vont leur avoir fournie. Et là, il y a des gens qui posaient la question. Ouais, mais là, la compagnie vous fournit l'étude. Ça veut dire que c'est biaisé. Ouais, mais il faut comprendre que l'étude qui a été faite par GNL, là, c'est pas de leur propre gré. Là. C'est pas eux autres qui décident de faire une étude qui se vende. Non. C'est le gouvernement qui impose une étude d'impact environnemental avec des critères qui sont très, très, très serré. Donc,
c'est GNL qui a payé, mais c'est pas
GNL
qui dirige.
C'est, il faut qu'elle fasse faire. Puis ça se peut qu'il y ait des conclusions dans cette étude-là qui ne font pas leur affaire.
Ben, ils ont attrapé l'ERSEM d'ailleurs sur quelques points.
Eh bien, on les a renvoyés à la table de travail.
On leur a clairement dit, préparez-vous mieux que ça pour le BAP parce que vous allez...
Vous allez poigner un mur.
Vous allez pleurer.
Et c'est exactement sur cette étude-là qu'on se base pour faire le gros du travail. Mais ensuite de ça, les avis d'experts, les gens comme Claude Villeneuve qui peuvent se présenter, des universitaires, et on va se baser sur cet argumentaire-là.
Deux questions d'auditeurs. Je ne sais pas si tes réponses, mais sois très franc. Première chose, est-ce que tu peux déposer un mémoire sans te présenter?
J'ai pas la réponse, mais de ce qu'on me disait, c'est que n'importe qui peut présenter un mémoire. Ça, oui.
Parce que souvent, dans les commissions qui sont gouvernementales, tu peux déposer un mémoire par Internet sans même te présenter.
Par contre, je sais pas si ça peut répondre à votre question, cher monsieur auditeur, mais vous pouvez suivre les audiences du BAP sur Internet.
Ah, intéressant,
c'est vraiment intéressant. Leur site est très bien fait. D'ailleurs, on fêtait les 40 ans du BAP l'an dernier et on a rafraîchi le site Internet. Si vous allez le voir, là, il est vraiment très bien fait. Il va vous expliquer puis ça va être disponible. Donc, vous allez pouvoir l'écouter dans le confort de votre salon.
Et autre chose, je doute que tu aies la réponse, mais une fois que tout le processus que tu nous as expliqué sera passé, ça se retrouvera sur le bureau du ministre. Puis si la réponse se donne rapidement, théoriquement, GNL, si on le financement, peuvent commencer tout de suite après?
Normalement, oui, c'est l'approbation du ministre. Et ce qui est important de savoir, c'est que la commission, suite à ses audiences et à ses avis, elle est dissoute. N'existe plus. Et un peu comme un jury qu'on ne veut pas écœurer là, ou qu'on ne veut pas être capable de pointer du doigt s'il y a de quoi qui ne marche pas, elle est dissoute. C'est vraiment quelque chose qui est temporaire, qui est trouvé par le président du BAP. Et je leur ai demandé à savoir s'ils avaient des moyennes au bâton, s'il y avait des pourcentages de réussite ou de où ils se sont trompés. Tu sais, des endroits où ils ont donné des recommandations d'aller de l'avant, puis ça a fini en catastrophe. Puis ils ne sont pas capables de faire de suivi. Parce que les comités sont dissous. Okay. Puis parce qu'aussi, le gouvernement n'applique pas toujours toutes les recommandations. Fait qu'admettons que je te donne des recommandations, tu en as appliqué 4 sur 8. Ben là, comment je fais pour savoir si c'est un succès ou si c'est un échec, puis c'est à cause de quoi? Tu sais, c'est-tu parce que tu n'as pas suivi tout ce que je t'ai dit ou c'est parce que. Tu comprends? Alors, c'est difficile d'avoir une moyenne au bâton. Par contre, il y a des exemples où on me disait, le BAP a déconseillé Ménarneau, Bécancour. On avait dit au gouvernement, allez pas là. Ils sont allés pareil.
Martin, très intéressant, évidemment. L'équipe du 95.7 Kick va suivre les travaux du BAP lorsqu'ils vont annoncer les dates et tout ça. Puis pour avoir déjà couvert un BAP, je crois que c'était pour l'usine pilote en P60 à Jonquière, ils s'en posent des drôles, des questions.
Ah, c'est long.
La personne qui va être là va avoir du fun là, pour couvrir ça puis nous rapporter les faits saillants parce que des questions weird qui sortent un peu de nulle part, ils s'en posent.
Effectivement.